Cette semaine, j'aimerais vous partager un peu, vous inviter à prier pour vos pasteurs. Prier pour pasteur Joël qui est en train de célébrer un peu son 25e anniversaire de mariage dans le sud. Avec Julie, ils reviennent cette semaine, je pense mercredi. Donc, qu'ils aient un bon temps, un bon ressourcement. Et prier aussi pour Tony. Tony, cette semaine, je vous dirais que c'est pas évident pour lui. Il a un très gros mal de dos, très incapable de bouger, cloué dans son lit ou couché par terre, pas capable d'être assis, ça fait trop mal. Priez pour lui parce que quand il est allé voir son chiro, elle lui a dit « on peut pas vraiment te replacer, t'es trop enflé ». Donc, priez pour que sa situation s'améliore. Il partageait, il envoyait une lettre aux différents anciens, il disait « à travers tout ça, à travers même la douleur, il est capable d'avoir des bons temps dans le Seigneur, il est capable de prier pour l'Assemblée, pour l'Église ». Pour que les choses avancent bien. Il y a un bon temps avec Dieu. Le moral est bon, mais la douleur est présente. C'est pour ça que vous êtes pogné avec moi ce matin. Donc, j'aimerais vous partager un peu cette semaine. Pour moi, vous savez, l'objectif, de tout croyant dans notre vie, c'est d'arriver à un point où le Seigneur va pouvoir nous utiliser pour toutes choses. Et puis, pour arriver à cette fin-là, pour moi, je prends des moments où je fais ce qu'on appelle du counseling biblique, qui est qu'on regarde un peu les forces, les faiblesses, les patterns qu'on peut avoir dans notre vie qui vont nous amener vers le péché ou vers certains comportements dysfonctionnels. Donc, des fois, c'est très demandant spirituellement et d'énergie physique, mentale, de se penser à tout ça. Puis on est, vous savez, hein, quand on prend le temps de regarder comme il faut nos vies, c'est pas évident. Hein, on n'est jamais vraiment bon ou on n'est jamais vraiment assez bon. Et puis, cette semaine, quand j'ai reçu l'appel de Tony qui disait « Est-ce que tu es capable de me remplacer? » J'étais moi-même dans une espèce de ressourcement et puis j'avais un devoir à faire qui était d'étudier 1 Samuel chapitre 24. Donc, vous allez faire l'étude avec moi ce matin. C'est un peu là-dedans qu'on va aller. On va aller dans 1 Samuel chapitre 24 qui est l'histoire dans laquelle on va la lire ensemble, mais Dieu donne à David une occasion de se débarrasser d'un problème. Et on va regarder pourquoi et comment est-ce que David répond. Et comment est-ce que cette réponse-là de David vient nous montrer une chose. Et le titre du message ce matin, si vous l'avez vu, c'est « Dieu sera juge entre toi et moi ». Et puis, mon sous-titre, c'est « Comment agir envers nos ennemis ». Et puis, là, aujourd'hui, en 2023, presque 2024, je n'ai pas le droit de dire que quelqu'un est mon ennemi, parce que c'est mal vu, mais la Bible était écrite dans un temps où on était un peu moins susceptible. Donc, on va prendre le temps de regarder, premièrement, pourquoi est-ce que Saül court après David? Pourquoi est-ce que c'est spécial? Où est-ce qu'on est dans le texte? Je vais prendre le temps d'amener un peu, parce que là, je vous sors un texte dans le milieu d'un livre, des rois. Souvent, on est moins allumé, on est moins habitué à ça. Et j'aimerais qu'on prenne le temps d'observer pourquoi et comment est-ce que la réponse de David face à la situation vient nous montrer, un, son cœur, et deux, comment est-ce que nous, en tant que chrétiens, on devrait agir? Et puis après ça, on va aller regarder comment est-ce que ça s'applique à nos vies personnelles. Donc, avant de sauter dans le texte, on va prendre le temps de prier. Et ensuite, on va lire le texte. Donc, Seigneur Dieu, ce matin, on veut te prier, te remercier premièrement pour la grâce que tu nous fais d'être dans nos vies. Le fait qu'on peut te connaître, le fait qu'on ait pu se déplacer ici ce matin. On ne veut pas le prendre pour acquis, Seigneur. On veut vraiment te remercier, te confier toutes ces choses. Te confier notre Église, le bâtiment, tous ceux qui servent ici, tous ceux qui ont mis la main à la pâte ce matin. On veut te remercier pour le temps du repas du Seigneur qu'on a pu prendre ensemble. Merci pour ceux qui travaillent dans l'ombre afin que ça puisse arriver. Merci, Seigneur Jésus, aussi pour le fait qu'on soit dans un pays d'abondance, Seigneur. Le fait qu'on puisse vivre pleinement, qu'on puisse tous et chacun se préparer à Noël, Seigneur Dieu, à pouvoir célébrer avec nos familles, passer du temps, mais aussi se rappeler qui tu es. Se rappeler, Seigneur Dieu, ta venue sur terre. Se rappeler, Seigneur Dieu, le prix que ça a coûté, notre liberté du péché. On veut te remercier, Seigneur Jésus, pour ça. On veut prendre un temps pour te prier, pour les pasteurs qui ne sont pas là ce matin. On pense à Joël, on te remercie pour ce temps qu'il peut avoir. On te demande de le garder, de le ressourcer. On te prie aussi pour Tony, qui souffre en ce moment. On te demande de mettre ta main sur lui, de le guérir, et puis de vraiment nous le ramener en pleine forme, Seigneur Dieu. Puis merci pour son moral, et maintenant bénis-le. Ce matin, Seigneur Dieu, on te demande de bénir cette parole dans nos cœurs, de pouvoir être avec moi qui va l'apporter, que tu puisses me donner de la clarté dans ce que je vais dire et que vraiment tu puisses toucher nos cœurs, que tu puisses m'utiliser comme un outil efficace entre tes mains afin que tu sois glorifié et que nos vies, Seigneur Dieu, puissent être encore plus vécues pour ta gloire. Seigneur Jésus, toutes les choses, on les prie en ton nom, Seigneur. Amen. Donc, je vous invite à tourner dans 1 Samuel, chapitre 24. Et on va en faire la lecture complète. Donc, 1 Samuel, chapitre 24. Moi, je vais lire dans la Louis II, 1910. Donc, de là, David monta vers les lieux forts d'Engidi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, « Voici, David est dans le désert d'Engidi. » Saül prit 3 000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Il dit à ses gens, « Que l'Éternel me garde de commettre contre son Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis, Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül. « Ô roi, mon seigneur !» Saül regarda derrière lui et David s'inclina, le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, « Voici, David cherche ton malheur ?» Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, « Je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. » Vois mon père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main, puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi. L'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort? Une puce? L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David? » Et Saül éleva la voix et pleura. Il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains. » et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait en ce jour. Maintenant, voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. David le jura à Saül, puis Saül s'en alla dans sa maison Et David et ses gens montèrent au lieu fort. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, pour vous donner un petit contexte, ça pourrait être pratique. Pour vous donner un petit contexte, on retrouve David. Alors, pour ceux qui sont moins habitués un peu, Saül est le premier roi de la tribu d'Israël. Saül a été choisi par Dieu et oint par le prophète Samuel pour être le premier roi. Et un jour, Saül, en passant, c'était un roi exceptionnel, un guerrier. Ça disait qu'il avait environ une tête de plus que tout le reste du peuple. Donc, c'était un grand homme, un homme charismatique, un homme fort, un bon guerrier, et il suivait l'Éternel. Jusqu'au jour où, à un moment donné, comme diraient les bons Québécois, à un moment donné, il était dans une ville et là, il y avait une fête à faire. Il devait offrir un sacrifice et le prophète Samuel, c'était la seule personne. Ça prenait un sacrificateur pour faire le service. Et donc, Saül attend une journée, deux journées, puis là, Saül perd patience et décide d'offrir lui-même le sacrifice, se faisant roi sacrificateur. Et ça, c'était interdit. Pas parce que Dieu est méchant, pas parce que Dieu est compliqué, parce que c'est la responsabilité des sacrificateurs, c'est la responsabilité des gens que Dieu a mis en place. Ça ne peut pas être le roi. Le roi, lui, gouverne, s'occupe des choses physiques et les sacrificateurs s'occupent des choses spirituelles. Si on décide de s'occuper de tout, quand ce n'est pas notre job, on va faillir. Donc, quand cette chose-là est arrivée, Samuel a annoncé à Saül, ben, malheureusement, Saül, à cause de ta désobéissance, l'Esprit va se retirer de toi. Et à partir de ce jour, Saül régnait seul, sans l'apport de l'Éternel, sans le support de Dieu personnel dans sa vie. Et à partir de ce moment-là, il a été agité. Donc Dieu lui a retiré son esprit, mais en plus, ça dit que Dieu a permis à un esprit méchant d'aller tourmenter Saül. Donc ça, c'est comme double punition. Mais, donc, pour continuer un peu la mise en contexte, à partir de ce moment-là, David a été choisi par Dieu. Donc, Dieu a envoyé Samuel oindre David, ce qui veut dire le proclamer comme le futur roi d'Israël. Mais David, c'était encore un adolescent. Donc, et Saül n'était pas mort. Donc, vous allez comprendre un peu où est-ce qu'on s'en va avec ça. Donc, Dieu a fait de David son futur roi. Et puis, on retrouve un peu dans l'histoire du livre de 1 Samuel, comment est-ce que Dieu utilise Saül et David pour montrer son règne. Comment est-ce que David vient supporter Saül dans ses faiblesses? Quand l'histoire la plus connue de David, c'est David et Bathsheba. Non, David et Goliath. C'est la première fois qu'on voit David faire quelque chose d'impossible. Okay? C'est pas vrai qu'un adolescent de 16 ans peut battre un gars de 10 pieds, un guerrier. C'est impossible. Mais Dieu fait des grandes choses à travers son serviteur. Et Dieu nous permet de voir un peu comment est-ce qu'il s'occupe et il est intéressé par des choses différentes de nous. Et plus ça avance, plus Saül devient paranoïaque. Plus Saül commence à avoir peur de David et plus Saül commence à perdre le focus sur ce que Dieu veut. Parce que, vous savez, David était un grand guerrier. Pour ceux qui ne savent pas, David était tellement un grand guerrier qu'à la fin des victoires, c'est un peu ce qui a peut-être pas joué en sa faveur, là, mais à la fin des victoires, il y a tout le temps une fête quand on revient, hein, puis qu'on a gagné. Donc, les guerriers reviennent, et puis là, les chants, quelqu'un sait c'est quoi le chant que les jeunes filles chantaient et dansaient autour du feu? Ouais, c'est tellement une bonne idée, gang, pour David, là. C'est tellement une bonne idée de taquiner le roi. Les jeunes filles chantaient, on a gagné, on a gagné. Saül a battu ses 1000 et David ses 10 000. Et ça, c'est marqué dans la Bible, Saül, il s'est mis à bouder. Puis il a dit, pourquoi David 10 000 puis moi juste 1000? C'est quoi cette affaire-là? Ils vont le proclamer roi, c'est quoi? Et puis là, moi je le fais en bougonnant, mais ça l'a fâché. Et Saül a perdu de vue que c'est Dieu, et on le voit dans Deutéronome, chapitre 17, verset 14 et verset 19, « Voici, c'est Dieu qui choisit le roi. C'est Dieu qui le met en place, et c'est Dieu qui va s'en occuper. C'est pas à vous. » Pourquoi? Parce que si on se souvient, quand Saül a perdu la royauté, il a essayé de se défendre. Il disait, « Ben oui, mais c'était pour offrir un sacrifice à l'Éternel que j'ai fait ça. T'étais pas arrivé, on devait rendre gloire à l'Éternel. » Qu'est-ce que Samuel a répondu à Saül? C'est des versets connus. Samuel a répondu à Saül. Pardon? Exactement. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Donc, on retrouve Saül, et puis à partir d'un moment donné, pour vous donner encore un petit peu de contexte, Saül devient tellement fâché que David est obligé de se sauver. OK, je ne vous dis pas toute l'histoire. Chaque fois que Saül était agité par l'esprit méchant, c'est-à-dire que la seule façon qu'il se calme, c'est que quelqu'un joue de la musique. Dans l'Ancien Testament, qui est le seul musicien connu qu'on connaît? Le roi David. Et ça en venait tellement à un point tel, Saül était tellement enragé, fâché après David, parce que David, tu sais, quand il y a quelqu'un qui est bon dans tout, puis qu'en plus, Dieu l'a choisi à ta place, mais qu'en plus, et c'est ce qu'on va voir ce matin, lui ne cherche pas ta place. David, ça ne l'intéresse pas, lui, de prendre la place de Saül. David veut voir Dieu agir. Il est conscient que si c'est lui qui prend les choses en main, c'est pas Dieu. Donc, si Dieu lui a dit, un jour, tu vas être roi, il dit, ben, c'est pas à moi de le faire. Et puis, Saül perd ça de vue, mais savez-vous, Saül avait un fils qui s'appelait Jonathan. Jonathan, lui, avait compris. Vous savez, Saül, lui, voit tous les autres peuples. Qu'est-ce que ça fait un roi quand ça devient roi? Quand un roi devient roi, là, ça paranoïe, puis ça tue tout le monde qui a rapport à l'ancien roi. OK? Ça tue tout le monde. Fait que Saül, lui, il se dit, c'est ça, David, c'est le prochain roi, fait qu'il va me tuer, va tuer mes enfants, va tuer mes petits-enfants, c'est fini, ça ne marchera pas. Mais Jonathan, lui, qu'est-ce qu'il fait? Jonathan, pour vous donner un contexte, le fils de Saül va voir David, puis il dit, regarde, c'est toi que Dieu a choisi pour être notre roi, donc moi, je vais me soumettre, je vais te servir, puis je vais vraiment faire alliance avec toi afin que moi puis mes descendants, on te serve, parce que c'est toi que Dieu a choisi, parce que c'est Dieu qui choisit le roi, puis c'est pas moi. C'est pas le sang, c'est pas la famille, c'est Dieu. Et puis ça, ça devient, on arrive ici ce matin, puis on a dans notre texte, ça fait déjà une fois, c'est la deuxième fois que Saül part pour courir après David. Et puis là, j'aimerais vous partager un petit peu comment est-ce qu'on est appelé à agir et comment est-ce que Saül était tourmenté par des influences humaines. Son idéologie était ancrée dans le monde, ancrée dans ce qu'il voyait autour de lui, que le roi doit défendre son poste, défendre sa famille, que le roi, c'est lui le king, c'est lui le boss, c'est lui qui décide. Il faut que tu places les choses un peu partout pour continuer à avancer. Et puis, Saül se ramasse avec un cœur qui est incertain dans toutes ses voies. Ça veut dire que quand il est mis devant une situation, devant une décision, il ne sait pas trop où s'en aller. Il ne sait pas trop quoi faire parce que ça nous dit l'Esprit de Dieu n'est plus sur lui. Fait que là, il a juste sa mentalité d'homme. Et puis là, lui, ce qu'il fait, il sort, il défend le peuple. Puis il est bon, là, il est efficace. Le peuple d'Israël n'est pas tombé sous lui, il n'y a pas eu de défaite. Il n'y a pas rien eu jusqu'au jour où l'Éternel a décidé que c'était fini. Donc, au lieu de mettre sa confiance en l'Éternel, au lieu de suivre l'Éternel, on voit que Saül est tombé dans l'incertitude, dans la peur. Il devient avec une peur irrationnelle. OK, puis, savez-vous, Saül, c'était quoi avant que Dieu en fasse un roi? La première fois qu'on rencontre Saül, là, il est perdu, parce qu'il cherche les brebis de son père. Il est perdu, il ne sait pas son où les brebis, il s'est complètement perdu, puis on s'entend, il cherche des moutons, il cherche des brebis, il est perdu, il ne sait pas où il s'en va, et puis quand Samuel le voit, il dit, ça va être lui le roi. On n'a aucune raison, on n'a aucune... Tu sais, c'est pas un meilleur gars, c'est pas... Non, parce que Dieu a choisi. Et donc, ce que Dieu lui a donné, il a tellement peur de perdre ce que Dieu lui a donné, parce que Dieu lui a donné par grâce. Dieu lui a donné sans qu'il ait rien fait. Et là, lui, il devient parano de le perdre. OK? Et puis là, tout le monde, j'ai l'impression que c'était comme un jeu, parce que les gens, ils vont voir, si vous allez voir au verset 2, Saül revient d'avoir fait la guerre, et puis là, les gens lui disent, « Voici David est dans le désert d'En-Gedi. » Fait que c'est comme si, là je paraphrase, c'est pas marqué dans la Bible, c'est mon feeling, c'est comme si chaque fois que Saül revient, ben on va le relancer après David, on va y parler de David, « Ah, on l'a trouvé, là, tu vas être content. »« Ah, on l'a trouvé, tu vas être content. » Parce que les gens, et puis David dans les psaumes, parce que vous savez qu'on doit presque la moitié des psaumes à David, si c'est pas plus, souvent, ils parlent des gens qui agissent et cherchent leur propre intérêt. Les gens qui parlent avec une langue mielleuse, doucereuse. Des gens qui vont mentir pour essayer de gagner quelque chose. La faveur du roi écoute les paroles doucereuses pour essayer de gagner sa faveur. Donc, les gens vont tout le temps utiliser ça. Et puis, je ne sais pas, j'ai de la misère à comprendre, mais Saül, il mord tout le temps à l'hameçon. Même là. Et puis, j'aimerais vous dire que dans le texte de ce matin... Dieu ne fait pas seulement nous montrer quelque chose. Dieu ne fait pas seulement montrer quelque chose à David. Dieu humilie solide Saül. Il n'y a aucune façon où Saül peut faire « j'avais tout en contrôle, j'étais correct, pas de trouble ». C'est impossible. OK? Donc, on va prendre le texte de ce matin pour qu'on puisse comprendre, puis après ça, on va clencher. Tout le monde me suit? Tout le monde sait on est où à peu près? C'était mon objectif un peu ce matin. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu en essayant de vous faire 22 chapitres de 1 Samuel aujourd'hui. Donc, on est ce matin, on est dans le texte 1 Samuel 24, comme on a lu. Saül prend 3000 hommes au verset 3 et alla chercher David, ses gens, puis jusque sur les rochers. On est dans une région, pour vous donner une idée, il y a une forteresse et autour de la forteresse, c'est des montagnes. Dans les montagnes, selon les spécialistes, il y a environ 1000 cavernes. Cachés un peu partout. Les cavernes peuvent accueillir entre 10 et 1000 personnes. Donc, il y a des méga cavernes, des petites cavernes. Il y en a de la caverne. Puis Saül, lui, il part avec 3000 hommes, puis il dit, on va trouver David. Bonne chance. Il arrive, et ça dit, il arriva au parc des brebis. C'est là qu'il y a environ 1000 cavernes. Et là, se trouvait une caverne. Il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Quelqu'un sait ce que ça veut dire? La Bible a un beau langage. Saül est rentré pour faire caca. Pour faire ça, Saül doit enlever son armure, OK? Parce que tu ne peux pas faire ça en armure. Donc, Saül enlève son armure, prend une dizaine de minutes. Ça prend environ 10 minutes, enlever une armure complète, OK? Il l'enlève, il s'installe. Donc, quand on est aux toilettes, je pense qu'on n'est pas plus... vulnérable. Il n'y a rien, on ne peut rien faire, là. Surtout si on est en train de travailler fort. Et puis là, Saül est complètement vulnérable. Il n'a pas d'armure, probablement laissé son épée. Il fait probablement des bruits bizarres. Puis là, t'as David avec 600 gars. Non, mais c'est parce que c'est important qu'on voit à quel point il n'y avait rien pour Saül, là. T'as beau être beau, grand, fort, puissant, avoir 3000 gars armés jusqu'aux dents, de l'élite. Quand tu es pogné dans ta toilette, puis qu'il y a à peu près 600 gars qui te regardent, puis sont comme, oh, il va, oh, il saute dessus. Oh, hey, David, Dieu te l'a donné, là. Il n'y a pas plus que ça. Mais là, David, voyons, c'est sûr que l'Éternel l'a mis là pour toi. Honnêtement, il n'y a pas plus humiliant que ça. Il n'y a rien que Saül peut faire. Donc, Dieu prend une situation où on a un homme qui a été choisi de Dieu, qui a désobéi, qui a perdu la faveur de Dieu, qui est mis devant l'homme que Dieu a choisi pour le remplacer. Un homme selon le cœur de Dieu. Un homme. Et puis là, tout le monde. OK? Mon premier point, je ne vous ai pas fait de PowerPoint parce que je l'ai fait hier soir à 10h30 puis ce n'est pas une bonne idée. Donc, mais mon premier point, là, c'est l'influence humaine. Voyez comment Saül, lui, la première fois que quelqu'un lui dit « David, il est là, on le pogne, on le tue », lui, il fait « Oh, oh, on y va ». Et David, quand Saül est mis vraiment devant lui, David, lui, il prend le temps de réfléchir. C'est « Qui est-ce que j'ai devant moi? Est-ce que c'est un moins que rien? Est-ce que c'est un pas bon? C'est qui est devant moi? » Et la parole de Dieu nous dit, David voit Saül comme loin de l'Éternel. Quelqu'un qui a été mis là par Dieu. Quelqu'un qui a été choisi. Et même s'il a perdu la faveur de Dieu, c'est quand même lui que Dieu a mis là. Et la Bible nous dit, comme je vous ai parlé dans Deutéronome 17, dans 1 Samuel 12, 12 à 25, Dieu nous enseigne clairement à travers le prophète Samuel que c'est Dieu qui choisit le roi et c'est Dieu qui choisit quand le roi entre en fonction. Pas les hommes, personne d'autre. Parce que la parole de Dieu nous enseigne que c'est Dieu, l'Éternel, qui sera votre Dieu. Mais comme vous avez rejeté l'Éternel, voici, je vais vous donner un roi. Mais sachez que c'est Dieu qui décide. Sachez que c'est Dieu qui décide du roi et c'est Dieu qui décide quand le roi entre en travail. Et donc, David connaît Dieu. David est au courant de ça. Savez-vous, une des premières choses que le roi devait faire quand il entrait en fonction, savez-vous, c'était quoi? C'était de se faire une copie à la main de la loi de l'Éternel. Donc, Saül connaissait la loi. Saül connaissait ces versets-là. Il les avait probablement déjà écrits. David les connaissait. Tout le monde. Tous les rois se faisaient une copie eux-mêmes. Et donc, David connaît Dieu, connaît le caractère de Dieu. Il connaît aussi la puissance de Dieu. Et David agit, non seulement il a connaître la parole de Dieu, mais il a croire la parole de Dieu. Savez-vous ça? Savez-vous qu'il y a une différence? Et Jésus la met de façon claire. Hein? Lorsqu'il dit, Satan connaît la parole de Dieu. Est-ce que ça le sauve? Est-ce que ça l'aide? Non. C'est pour lui une condamnation complète, constante. Donc, il y a une différence entre connaître Dieu et croire ce que Dieu dit. Et puis, c'est une chose qui m'a le plus frappé. Vous savez, la raison pour laquelle j'étudie un peu ce passage-là, c'est que dans notre vie, dans ma vie, dans la vie de, je pense, tout croyant, à un moment donné, on va arriver avec une connaissance de Dieu. OK? Et puis, quand on arrive avec cette connaissance-là de Dieu, on peut la garder dans notre tête, et même l'avoir dans notre cœur. On peut aimer la parole de Dieu, on peut l'avoir dans notre tête. Mais quand c'est le temps d'agir, bien là, notre foi, j'y crois-tu vraiment ça? Hein? Je vais-tu vraiment mettre ma confiance dans ce que j'ai lu et dans ce que je sais? Parce que ça, c'est difficile. OK? C'est non seulement difficile, c'est extrêmement demandant. Et c'est un peu la lutte dans laquelle je suis, parce que, tu sais, quand on lit 1 Samuel 24, on voit David, puis on dit, waouh, quelle foi! Puis quand on lit les Béatitudes, quand Jésus nous parle d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, puis quand Jésus dit, ça c'est bon, mais même les inconvertis, même les non-croyants font ça, aimer leur prochain. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. OK. Aimez les autres. Ayez confiance en Dieu. Et puis, je sais ce matin, je suis persuadé qu'à peu près 90 % du monde, parce qu'il y a 10 % qui ne sortent pas de chez eux, là, mais il y a 90 % du monde ici, on est capable, quand on dit aimez vos ennemis, là, on a tout quelqu'un qui pop dans notre tête. On est tous capables de faire ouais, OK. Comment je peux faire pour aimer cette personne-là, pour la suivre. Mais, vous savez, connaître, mettre en pratique, croire, c'est pas évident. Et on a ici, David nous montre exactement comment ça fonctionne. Donc, Il y a les influences humaines qui peuvent arriver, puis il y a la confiance en Dieu. David n'a pas écouté l'influence des autres autour de lui. Pourquoi? Parce que les autres, les gens autour de lui, ces 600 personnes qui sont venues, c'est des gens de mauvaise vie, des gens qui ont été un peu expulsés de chez eux. C'est pas des gens, c'est pas des conseillers, là. OK? Ça nous dit quand David s'est sauvé à peu près deux chapitres avant, il s'est sauvé tout seul avec 6 gars. Ils se sont sauvés pour pas que Saül les tue. Il a pris un peu de nourriture, puis il s'est caché. Puis les gens ont appris qu'il était là, puis il y a des gens qui sont allés le voir. Ce n'est pas des gens de bonne vie, ce n'est pas des gens qui avaient de l'argent, ce n'est pas des gens qui avaient de l'éducation. C'est vraiment des personnes. Et puis David a fait de ces 600 personnes-là, il en a fait une troupe d'élite, une troupe de guerriers qui a fait plus de ravages que Saül, avec ses 3000 hommes d'élite, avec toute son armée. Saül a défendu Israël, mais David, là, il se promenait, puis il allait détruire du monde un peu partout. Ce que l'Éternel lui disait de faire, il le faisait. David a transformé 600 personnes, 600 no-names, en guerriers puissants. David, c'est un leader qui était centré sur Dieu. Okay? David, c'est un leader qui, non seulement connaissait la parole de Dieu, mais il connaissait Dieu personnellement. Puis ensuite, il croyait vraiment ce que Dieu disait. Et puis, c'est bon de savoir ce que Dieu nous promet. C'est encore mieux de le croire, c'est encore mieux de le mettre en pratique. Donc, quand Saül se met, regardez bien comment David parle. Premièrement, il s'approche parce que tu ne peux pas sortir de la caverne et faire comme j'aurais pu te tuer, il n'y a pas de troupe, si tu n'as pas une preuve. Fait qu'il va chercher une preuve. Comment est-ce que Dieu l'avait mis? Comment Dieu avait mis Saül entre ses mains? Dieu, il n'y avait rien que Saül pouvait faire. Pour vrai, là, s'il y a une des places dans la vie où je n'ai pas le goût de me faire attaquer, c'est là. OK? Puis là, David, il allait couper une partie du manteau de Saül. Et après ça, il sort puis il dit, « Ô mon roi, ô roi, mon seigneur! » Donc, David est conscient que Saül est le roi. « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, « Voici, David, cherche ton malheur. » Pourquoi est-ce qu'on est facilement influencé par les gens qui cherchent leur propre intérêt ou qui ne cherchent pas les intérêts de Dieu? Hein? Pourquoi est-ce que tu crois les autres? Vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains. Mettez-vous dans les culottes de Saül. » Lui, il ressort, il remonte ses pants, il remet son armure. Il s'est rendu compte de rien. Il s'est même pas rendu compte qu'il manquait un bout de son manteau. Il s'est rendu compte de rien. La vie est belle. Dieu est bon. J'ai mes 3000 soldats. On va trouver David bientôt. Ah, puis même Saül, là, si vous lisez un peu plus loin, là, Saül continue d'implorer l'Éternel, continue de dire « Ah, l'Éternel te bénit, l'Éternel... » Tu sais, Dieu reste son Dieu. L'Éternel reste le Dieu de Saül. Mais Saül suit n'importe comment, fait n'importe quoi. Son cœur ne suit pas Dieu, son cœur est tortueux, son cœur est troublé. Puis tu as David qui, lui, cherche vraiment Dieu de tout son cœur. Et ensuite, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent « Voici, David, cherche ton malheur. Vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné. Pourquoi est-ce que tu me cherches? » Et il dit au verset 13, « L'Éternel sera juge entre moi et toi. L'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. » Combien de fois est-ce qu'on mélange la volonté de Dieu et puis notre propre volonté? Souvent, en tout cas dans ma part, là, c'est quand quelque chose me fait mal. C'est quand quelqu'un m'énerve, quelqu'un pèse sur mon piton. OK? Et là, même si j'ai un bac, même si j'ai toutes les études du monde, même si je connais la parole de Dieu, même si je la crois de tout mon cœur, là, quand quelqu'un appuie sur mon piton, là, c'est fini. OK? Puis pas fini dans le sens que on s'entend, là, pas plus personne. Là. Mais le péché vient. Le péché prend... On dirait que le péché prend le contrôle de notre vie, de nos pensées. Puis là, dépendant de notre capacité à répondre comme il faut ou pas. Mais arriver à dire « L'Éternel sera juge entre moi et toi. L'Éternel me vengera de toi. » Avez-vous déjà essayé de dire ça à quelqu'un qui vous envoie promener? Bien, je ne vous conseille pas de le crier, mais je vous conseille de le croire. Hein? Et puis, je veux faire un parallèle ici. Dans le fond, à cause de ça, avant d'aller plus loin, à cause de ça, à cause de cette action-là de David, on est capable de comprendre et de voir sa confiance en Dieu. On est capable de voir que David suit le roi. David est conscient que Dieu a un plan et que Dieu est un Dieu de timing. Excusez-moi parce que je ne l'ai pas en français, là. De temps parfait, de bon moment. Et Dieu a son plan. Et quand ça va être son temps, David, il sait que ça va être son temps puis que Dieu va s'occuper de lui. Et puis que peu importe ce que ses ennemis vont faire, ses ennemis, là, c'est plate à dire, mais c'est la personne qui le sert. Donc, David sert Saül. Saül n'est pas content. Saül est jaloux. Donc, l'ennemi de David, c'est la personne que David va servir. Et vous allez voir que jusqu'à la mort de Saül, David sert Saül. Parce que Saül est l'élu de Dieu. OK? Et puis, dans nos vies, ici, même si David était le futur roi, Saül était placé par Dieu. Donc, seul Dieu pouvait l'enlever. Moi, j'ai une question pour vous. Je fais un petit parallèle ici. C'est qui, dans nos vies, c'est qui loin de Dieu? C'est qui la personne que Dieu a choisie pour régner dans nos vies? Pour régner sur notre vie, sur la vie de l'Église, sur le monde? C'est qui l'élu loin de Dieu dans nos vies? Si on se fie à la Bible, c'est Jésus. Jésus est loin de Dieu. Jésus est celui que Dieu a mis en place. OK? Donc, si on regarde un peu les propos de David, c'est « Qui suis-je pour porter la main sur loin de Dieu? Qui suis-je pour m'opposer à celui que Dieu a choisi? Je suis qui, moi, pour arriver à ça? » Et la vraie question, c'est comment est-ce que je fais pour accepter et vivre ces réalités-là? Vous savez, parce que Jésus est loin de Dieu. Jésus est le Messie. Il y a plusieurs. Et puis, on rentre là, dans une période, on appelle ça l'Avent. Là. Vous pouvez prendre le temps, je vous conseille. Prenez le temps d'ouvrir la Bible. Allez voir dans l'Ancien Testament tous les endroits où Dieu appelle l'homme à réaliser un jour, je m'en viens. Voici les signes. Voici, hein? La Vierge deviendra enceinte dans telle ville, à telle période, après tant de temps. Voici comment vous allez le recevoir. Je vais envoyer quelqu'un avant. Voici, 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 voici. Il y en a tellement. Des preuves bibliques que Jésus était vraiment l'élu de Dieu. Et donc, on peut prendre un temps pour réaliser à quel point c'est puissant, c'est fort, à quel point Dieu a transformé ça. Et dans le fond, suivre Jésus et croire ces choses-là, croire que Jésus est loin de Dieu, le Messie, celui qui a été choisi, celui qui nous sauve, bien, la première chose que ça devrait faire, ça devrait changer ma vision de la vie. Changer ma vision de la vie. OK? Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que suivre Jésus devrait changer ma vision des résultats de mes actions. OK, tout le monde me suit? Ça devrait changer ma vision des résultats de mes actions. OK? Ça veut dire quoi, le résultat de mes actions? Ça veut dire que quand je fais une action, je m'attends à ce qu'il arrive quelque chose. OK? Donc, quand je fais l'action, exemple, de boire de l'eau. Si je fais l'action de boire de l'eau, je le vois là, j'ai pas d'idée, là, mais si je fais l'action de boire de l'eau, le résultat, c'est que je vais être hydraté, OK? Donc, j'aurai pas mal à la tête, je vais pouvoir avoir un bon fonctionnement, whatever. Mais l'idée ici, c'est que ça va changer les résultats, connaître Jésus, pas de boire de l'eau, mais de faire les commandements de Dieu. Donc, quand Dieu me dit « aime ton prochain », le résultat que moi j'espère, c'est quoi? C'est que mon prochain va m'aimer en retour. Que la Bible enseigne ça? Non, la Bible enseigne « aime ton prochain ». Puis ça finit là. Elle ne te promet pas de résultat, mais elle va dire « si tu aimes ton prochain, tu vas glorifier Dieu, tu vas être heureux ». Mais je ne serai pas heureux si mon prochain ne m'aime pas en retour. La Bible a dit que ce n'est pas grave. Hein? Faites confiance à Dieu. Ça dit aussi « aime ton ennemi ». Donc moi, j'ai l'impression que si j'aime mon ennemi, le résultat que j'espère, c'est quoi? C'est que mon ennemi va arrêter d'être fatiguant, va arrêter d'être mon ennemi, et on va se réconcilier. Est-ce que la Bible nous promet ça? Non. Qu'est-ce que la Bible nous demande de faire? Aime ton ennemi. Ah, mais là, Seigneur, j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à placer ensemble les résultats que tu veux. C'est quoi les résultats que Dieu veut? Pourquoi Dieu nous demande toutes ces choses-là? Pour le glorifier? Pourquoi Dieu nous demande toutes ces choses-là? C'est parce que Dieu nous demande de regarder constamment à lui. En faisant ça, on va le glorifier, mais en faisant ça aussi, on va être toujours, ou le plus possible, on va changer notre vision des choses, puis là, on va être capable de simplement obéir. Et puis là, quand moi j'obéis et que je m'attends à des résultats, puis que les résultats n'arrivent pas, qu'est-ce que ça va faire en moi? Ça va, j'espère, m'amener à tourner mes yeux vers le Seigneur, réaliser que j'ai peut-être des angles morts, il y a peut-être quelque chose que je ne comprends pas, il y a peut-être un péché dans ma vie qui m'empêche de voir les choses. Ou peut-être que cette personne-là, qui est mon ennemi, est vraiment juste exécrable. Ça arrive. Ça arrive, et puis Dieu ne nous dit pas qu'il va enlever ça. Dieu ne nous dit pas qu'on va, parce qu'on est chrétien, les résultats, c'est qu'on va avoir une belle vie. La Bible ne nous dit pas que parce qu'on est chrétien ou qu'on croit en Dieu, ben toutes choses vont bien aller. Non, il nous dit que toutes choses vont concourir à notre bien. On va grandir. Et puis souvent, là, pour grandir, il faut qu'on enlève des affaires. Hein? Si vous voulez avoir un arbre en santé, moi, chez nous, c'est ça qui est arrivé. Si je veux avoir un arbre en santé, des fois, il faut couper des branches qui ne servent à rien. Il faut enlever des affaires. Je suis sûr que ce n'est pas agréable. Puis moi, je ne l'ai pas fait. Je peux vous dire, c'est pas bon. Mon arbre, il part de partout. Il n'est pas en santé, puis il m'énerve. Fait que là, pour arriver à ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? La même chose. Il faut que j'enlève des branches. On appelle ça pruner. Il faut que j'enlève des choses. Et puis, savez-vous ce qui arrive quand on attend avant de pruner? C'est plus dur. Ça prend des plus gros cutters. Ça prend plus de force. Ça prend plus de temps, puis ça fait plus mal. Donc, peu importe où on est, comment est-ce qu'on fait pour suivre loin de Dieu? Comment est-ce qu'on fait pour faire ces choses-là? Bien, on va laisser Dieu être le juge entre nous et lui. On va modifier notre vision des résultats qu'on veut avoir par l'obéissance. Et puis, on va faire confiance à Dieu. On va commencer à croire et à vivre au lieu de savoir. Et ça fait du sens? Pas sûr. Donc, c'est quoi notre but ultime? C'est quoi mon but ce matin de dire que Dieu sera juge entre toi et moi? C'est que David, devant Saül, David cherchait la face de Dieu. Donc, notre but, quand on est devant quelqu'un qui nous opprime ou devant l'ennemi ou devant les questions, ça peut être plein de choses. Là, j'ai parlé d'une personne, mais vous pouvez avoir des situations dans votre vie qui vous demandent des réflexions, qui vous demandent d'être passé au crible, qui vous demande de vraiment réfléchir. Et puis ça, c'est là, vous avez de la difficulté, c'est difficile, vous avez des angles morts. Vous n'êtes pas capable de comprendre pourquoi la vie est là. Mais à travers votre épreuve, questionnez-vous. C'est mon but, à travers cette épreuve-là, c'est Dieu. Et peut-être que votre épreuve, elle n'a aucun rapport avec la Bible. Peut-être que c'est au travail, peut-être que c'est dans des relations, peut-être que c'est envers vos enfants, peut-être que. OK? Sky is the limit. Si on se questionne sur comment est-ce que je peux m'approcher de Dieu là-dedans? Qu'est-ce que Dieu veut me montrer? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Bien, on va faire comme David, puis on va s'enlever de l'équation, puis on va chercher la face de Dieu. Si Dieu est notre but ultime, bien, faire ce que Dieu veut, ça peut me coûter peut-être monétairement, peut-être ça va me coûter des sous, peut-être va falloir que je mette des choses en place dans ma vie pour éloigner des tentations, des péchés. Peut-être qu'il va falloir que je demande pardon à quelqu'un. Peut-être que, à cause de mes actions ou des actions de quelqu'un d'autre, ça va peut-être me coûter des relations. Je vais peut-être être obligé de briser des ponts. Ça va probablement faire mal. Est-ce que si je cherche Dieu, est-ce que je vais tenter de devenir moi-même le roi de ma vie? Est-ce que je vais m'attaquer à loin de l'Éternel qui est Jésus pour avoir moi-même le contrôle de ma vie? Parce que c'est ça la réalité. Quand je prends le contrôle de ma vie, Bien, non seulement je découpe le manteau du Seigneur Jésus, puis là, je lui dis, j'avais ton manteau, j'aurais pu gagner. Mais j'attaque loin de l'Éternel en essayant de combler moi-même aux lacunes de ma vie. Donc, peut-être que ça va me coûter des relations. Peut-être que ça va me coûter de l'argent. Peut-être que j'ai fait des choix dans le passé qui sont pas sages. Et puis que là, il faut que je répare des choses. Puis là, ça va me coûter quelque chose. Probablement que les gens autour de moi ne comprendront pas. Hein? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu demandes pardon? Tu es faible? C'est quoi le rapport? Tu n'as pas rapport là, d'aller à l'église? Tu n'as pas rapport de chercher le Seigneur? Voyons, vis ta vie, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. C'est Jésus qui a dit ça, vous ne savez pas. Bon. Ça peut peut-être, les gens ne comprendront pas nécessairement. Pourquoi? Parce que ça vient de Dieu. Hein? Je vais peut-être avoir l'air moins intelligent. Probablement, en fait, je vais avoir l'air moins intelligent. Okay? Pour vous donner une idée, là, Dieu, si Dieu est le but ultime dans notre vie, on va regarder, comme Paul dit, toute chose comme de la boue afin de gagner Christ. Que ce soit des choses palpables ou des choses invisibles. Et puis, David, vous donnez une idée, là, il mangeait à la table du roi. C'était le plus grand guerrier de tout Israël. Il y avait des femmes, il y avait des soldats, il y avait le respect de tout le monde. C'était un musicien, c'était aussi un auteur, c'était un homme qui avait tout. Puis pour ne pas porter atteinte à Saül, il a tout laissé ça. Il a tout abandonné, même si tout lui revenait. Là. C'était lui le roi, il était loin, il le savait, sa famille le savait, les soldats le savaient, Saül le savait, Jonathan le savait, tout le monde le savait. Là. Yo dude, c'est toi le prochain roi, là. Tout le monde le sait. David a accepté de laisser tomber tout ça parce que c'est les timings de Dieu, c'est les temps de Dieu. Puis quand, plusieurs reprises, là, Saül est devant David, à sa merci, David fait confiance à Dieu. C'est un timing. Si David était entré au pouvoir plus tôt, on n'aurait pas la même parole de Dieu, on n'aurait pas la même Bible, on n'aurait pas la même histoire. OK? Ce ne serait pas pareil. Mais on arrive ici, David fait confiance à Dieu, on a exactement les timings que Dieu voulait. On a toutes ces choses-là qui arrivent. Et puis, Dieu a fait plus de bien à travers ça que si David avait pris les choses en main. OK? C'est la même chose dans notre vie. Dieu va faire plus de bien dans votre vie, à vous-même, à votre âme, dans vos relations, si vous faites confiance à Dieu, quand c'est difficile. Si vous faites confiance au Seigneur, si vous cherchez sa face en premier, mais ça va toujours être ultimement meilleur. Mais physiquement, là, trois quarts du temps, ça va être plus dur. Trois quarts du temps, ça va être difficile. Trois quarts du temps, ça va vous coûter quelque chose. Le trois quarts du temps, là, vous allez faire, Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vis ça? Pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi est-ce que ça me coûte ça? Pourquoi est-ce que j'ai cette relation-là? Pourquoi tu mets ça là? Help! Et finalement, on va réaliser que mieux vaut être avec Christ et vivre des moments difficiles que de renoncer à suivre le Seigneur et vivre une vie engourdie et sans vérité. Donc, c'est un peu mon appel pour vous ce matin. Est-ce que Jésus est celui que vous suivez? Est-ce que Jésus est loin de Dieu pour vous? Est-ce que Jésus est votre roi? Si c'est le cas, est-ce que c'est vraiment votre but? Et croyez-vous vraiment la parole de Dieu? Croyez-vous vraiment que ce que Dieu vous offre et ce que Dieu vous demande est meilleur que ce que le monde offre? Noël s'en vient. Je pensais commencer avec un beau message positif. Mais je vous invite à prendre le temps dans ce mois-ci, non seulement à vous préparer, là, tu sais, décorer si vous voulez décorer, faites-vous un sapin, whatever, mais prenez le temps de préparer la chose la plus importante votre cœur. Prenez le temps de réfléchir, parce que c'est rare, là, mais dans le mois qui suit, là, les gens vont être conscients, puis s'ils ne sont pas, vous pouvez les titiller un petit peu, ils vont être conscients que Noël veut dire nativité, que Jésus est un peu le centre de Noël. Oui, si vous prenez le temps de faire une recherche, là, vous allez savoir que la fête de Noël, le 25 décembre, c'est païen, puis ça a rapport avec un switch de... Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on n'appelle pas ça le solstice d'hiver ou la fête des macabres. Non, on appelle ça Noël. Les gens vont être ouverts à entendre parler du Seigneur. Les gens vont être ouverts aussi à comprendre que, ah ouais, ben, pourquoi? Je comprends pas trop. C'est quoi le rapport avec Jésus qui est né? Qu'est-ce que ça change? On a une porte, là. Mais si on n'est pas prêt, si le Seigneur n'est pas vraiment notre objectif, puis que notre objectif, c'est de faire la meilleure dingue, la meilleure décoration, la meilleure party, on va manquer le bateau, on va manquer le temps. Donc, je vous encourage, ces temps-ci, à vous concentrer sur l'essentiel. Que le Seigneur Jésus soit au centre de tout et que vous puissiez être assez vite pour prendre toutes les petites portes. C'est la prière pour ma vie. C'est ma prière pour chacun d'entre nous, qu'on puisse prendre toutes les petites portes pour parler de l'Évangile. Parce que là, sachez, puis réalisons ensemble qu'on a une grâce. C'est un temps de l'année où les gens vont être plus allumés. Donc, n'ayez pas peur de défoncer des portes. Si vous en voyez une, prenez la parole, puis faites confiance à Dieu. Hein? Faites confiance à Dieu dans toutes choses, puis prenez le temps de le remercier. Tout ce qu'il fait. On va prier, et ensuite je vais descendre. J'inviterai LP, je pense qu'il y a un chant pour finir. Je finirai pas sur ma belle voix. Prions. Seigneur Jésus, on veut ce matin proclamer ensemble que tu es notre roi. On veut, Seigneur Dieu, te donner toute la place dans nos cœurs, dans nos vies. On veut t'implorer, Seigneur Dieu, parce que trop souvent, on cherche nous-mêmes à nous faire justice. On oublie, Seigneur Dieu, que c'est toi qui venge, c'est toi, Seigneur Dieu, qui peux faire la bonne chose. On oublie parfois, Seigneur Dieu, que sans toi, on n'arrive à rien. On n'aurait pas le salut, on n'aurait pas le Saint-Esprit, on n'aurait pas la capacité de comprendre. On veut te remercier pour ça, Seigneur Dieu, on veut te glorifier, on veut te mettre en premier dans notre vie. On veut t'offrir toutes choses, Seigneur Dieu. Et on veut te demander, Seigneur Dieu, de nous donner ta force afin qu'on puisse se séparer de nos péchés. On veut, Seigneur Dieu, te demander de nous aider à vraiment avoir cette sagesse qui vient de toi, qui va peut-être faire qu'on va avoir l'air fou face aux gens du monde. Mais Seigneur Dieu, on le sait que la folie de Dieu est plus forte que la sagesse du monde. On sait aussi, Seigneur Dieu, que tu as choisi les choses folles du monde afin d'en sauver beaucoup. Et Seigneur Jésus, on veut te remercier pour ça. On veut te remercier parce que tu es venu, Seigneur Dieu, sur terre. Tu as pris un corps d'homme semblable au nôtre. Tu as vécu la vie parfaite. Seigneur Jésus, on veut te remercier parce que malgré ta vie parfaite, Seigneur Dieu, tu as accepté d'être maltraité, d'être humilié. Seigneur Dieu, tu savais en prenant le corps humain qu'un jour on allait te livrer. Un jour on allait te crucifier, Seigneur Dieu, parce qu'on n'était pas capable de voir ta grandeur, parce qu'on ne voulait pas non plus que tu nous montres notre orgueil. Mais Seigneur Dieu, tu es ressuscité. Et par ces actions, Seigneur Dieu, on a la vie. Tu nous donnes ta vie. Tu nous donnes, Seigneur Dieu, tout ce qu'on ne mérite pas. Tu nous donnes, Seigneur Dieu, la vie à travers ton Fils. Tu nous donnes, Seigneur Jésus, ta personne, ta perfection, Seigneur Dieu. Ton dossier parfait. Tu nous le donnes, Seigneur Dieu, tu nous permets de le montrer à ton Père afin qu'on puisse devenir tes frères, qu'on puisse être ensemble capables de t'appeler Dieu, qu'on puisse te remercier pour l'éternité et que tu puisses vraiment régner sur nos vies. Aide-nous à nous humilier nous-mêmes, Seigneur Dieu, dans nos vies, là où on est orgueilleux. Aide-nous à chercher ta face. Bénis ton Saint-Nom, Seigneur Dieu, dans nos vies et utilise-nous comme des instruments agréables pour toi. Seigneur Jésus, vraiment, merci pour ce matin et bénis-nous. Pour ta gloire, je te prie, Seigneur. Amen.